Épître de Jude. Résumé des réunions d'études de Paris 1946. Article paru dans le Messager évangélique des années 1964 et 1965. Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux appelés bien-aimés en Dieu le Père et conservés en Jésus-Christ. Que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Or, je désire vous rappeler, à vous qui, une fois, saviez tout, que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, a détruit ensuite ceux qui n'ont pas cru, et qu'il a réservé dans des liens éternels, sous l'obscurité, pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure, comme Sodome et Gomorre et les villes d'alentour s'étant abandonnées à la fornication, de la même manière que ceux-là, et étant allés après une autre chair, sont là comme exemple, subissant la peine d'un feu éternel. De la même manière, cependant, ces rêveurs aussi souillent la chair et méprisent la domination et injurient les dignités. Mais Michel, l'archange, quand, discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui. Mais il dit, « Que le Seigneur te censure !» Mais ceci, ils injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas, et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement comme des bêtes sans raison. Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense et ont péri dans la contradiction de Corée. Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes, nus et sans eau, emportés par les vents, arbre d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés. Vagues impétueuses de la mer, jetant l'écume de leurs infamies, étoiles errantes à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Or Enoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé de ceci en disant « Voici, le Seigneur est venu, au milieu de ses saintes myriades, pour exécuter le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils ont impiement commises et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ceux-ci, ils sont des murmurateurs, se plaignant de leur sort, marchant selon leur propre convoitise, tandis que leur bouche prononce d'orgueilleux discours, et admirant les hommes en vue de leur propre profit. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ils vous disaient que, à la fin du temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et les uns qui contestent, reprenez-les, les autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair. Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et maintenant, et pour tous les siècles. Amen.
Dieu, dans sa bonté, a donné, outre l'apôtre Paul, dont certaines épîtres sont par endroits proprement prophétiques, de Thessaloniciens chapitre 2, de Timothée chapitre 3 et chapitre 4, trois fidèles sentinelles pour dénoncer d'avance le mal qui commençait à s'introduire dans la chrétienté. Ce sont l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, puis Jean dans sa première épître, et enfin Jude. Il y a ceci de particulier dans l'épître de Jude, qu'elle traite uniquement et entièrement de l'histoire de l'apostasie, c'est-à-dire de l'abandon des vérités que Dieu nous a données pour notre bonheur et notre joie. Très courte, elle revêt cependant un caractère bien important. Dans un style prophétique énergique, l'auteur inspiré nous dévoile que l'apostasie avait déjà commencé de son temps, qu'elle continuerait et arriverait à maturité juste avant le jour du Seigneur, car ce jour commencera par le jugement de cette apostasie après l'enlèvement de l'Église. Nous trouverons tout au long de l'Épître les caractères de cette apostasie, comment elle se manifeste et se développe. Il est bon pour le chrétien d'avoir toutes les pensées de Dieu pour qu'il puisse discerner ce qui n'est pas de Dieu, mais est de l'Antichrist. Mais la partie la plus précieuse pour nous, et que Dieu nous accorde de la considérer avec soin, ce sont les ressources que Dieu nous donne pour faire face au mal. Ces ressources, actuelles au temps de Jude, le sont encore, et elles sont la sauvegarde de tous les saints jusqu'à la venue du Seigneur. Dieu est fidèle, et il ne délaisse jamais l'homme pieux. Les premiers versets sont l'entrée en matière. Ensuite, jusqu'au verset 16, c'est le corps du sujet. Les versets 17 à 23 donnent les ressources. Enfin, les derniers versets, si précieux, nous montrent que Dieu est capable de garder dans tous les temps. Le verset 17 nous fait penser que cette épître a été écrite une des dernières. Les apôtres commençaient à disparaître. Mais le mal, hélas, s'était déjà infiltré. Et voilà un homme de Dieu qui laisse tout le sujet de joie qu'il avait à écrire de notre commun salut et qui dit « Non, il faut que j'avertisse. » Il est la sentinelle qui crie « Voilà le mal, attention !» Cette épître suffirait, à elle seule, à annuler tous les enseignements qui, dans la chrétienté, laisse supposer que le christianisme peut avoir le dessus sur l'homme. Elle nous enseigne, à nous qui sommes en présence de la parole de Dieu, et devons être touchés personnellement, la corruption totale de l'homme et l'échec de la profession chrétienne sans la vie. Dans ce sens, nous trouvons ici le résultat de l'expérience la plus complète que Dieu ait faite de l'homme. Une telle constatation doit nous remplir à la fois d'humilité et de crainte. Elle nous intéresse par le fait que nous sommes au dernier jour, où s'affirme la puissance du mal et où la chair montre chez l'inconverti. Elle est la même aussi chez le chrétien, ce qui est une raison de plus pour craindre, ce qu'elle peut faire, même placée sous la bénédiction extérieure du christianisme. Dieu ne joue pas avec la chair, et ceux qui ont voulu jouer avec elle ont sombré d'une façon terrible. L'intelligence générale de l'Épître nous sera rendue plus sensible par ces quelques réflexions. Nous entendons souvent dire, même dans les milieux chrétiens, qu'il faut faire tout son possible pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu répond : ce ne sera que faillite complète. Nos cœurs doivent être soumis à cette pensée. Tout ce qui est mis entre les mains de l'homme, il le gâte. L'expérience a été faite en Israël, Que reste-t-il? Après la captivité, Dieu ramène un résidu. Ses descendants clouent le Fils de Dieu à la croix. Le christianisme, qui introduit la pleine révélation de Dieu, est mis entre nos mains. On en vient, dans certains milieux, à renier et le Père et le Fils. Quel cœur que le nôtre, mais quelle grâce aussi s'est occupée de nous. Dieu fasse que la lecture de cette épître nous pénètre un peu mieux du sentiment que tout est grâce, comme cette pensée éclate dans l'épître au commencement et à la fin, mais qu'il en est ainsi parce que, véritablement, il n'y a rien de bon en nous, pas plus en nous, croyants, que chez les inconvertis, en nous, frères et sœurs avancés peut-être dans la vie chrétienne. Ce sentiment était certainement l'un de ceux qui donnaient leur caractère à ceux qui nous ont enseigné. Versets 1 et 2.
Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux appelés, bien-aimés en Dieu le Père et conservés en Jésus-Christ, que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés.
La parole nous donne peu de détails sur Jude, mais quand il se présente à nous, nous savons qu'il avait un maître, Jésus-Christ. Il est l'esclave de ce maître, et il est jaloux de sa gloire. Il ne peut pas souffrir qu'on y porte atteinte. Il est heureux de déclarer tout de suite son titre d'esclave et la seigneurie de Jésus-Christ à son égard. Précisément, l'un des mots graves signalés dans cette épître est le mépris de toute autorité, de celle du Seigneur en particulier. Jude, lui, met son titre d'esclave en avant. Aujourd'hui, nous avons affaire, comme lui, à montrer que nous avons un maître, un Seigneur. Le Seigneur lui-même a dit cette vérité si simple, si profonde, qui touche à toutes les activités de notre cœur et de notre vie.
Nul ne peut servir de maître.
Cela va loin, car ce qui caractérise un esclave, c'est qu'il est entièrement soumis à la volonté de son maître et qu'il n'a aucune volonté propre. C'est ce qui doit nous caractériser aussi. L'apostasie n'est pas autre chose, au fond, que le déploiement complet de la volonté de l'homme. C'est pourquoi il y a plusieurs apostasies, chacune en rapport avec un des caractères de la responsabilité de l'homme. Apostasie chrétienne, apostasie juive et, d'une manière beaucoup plus générale, apostasie de l'homme dans son ensemble, dont on trouve le germe à l'origine du monde sans Dieu. L'Antichrist manifeste à son apogée ce qu'est l'homme sans Dieu, dressé dans sa volonté contre Dieu. C'est exactement le contraire de l'attitude chrétienne. Nous sommes croyants pour obéir. La volonté propre, dans la chrétienté actuelle, est un des signes de l'apostasie que nous voyons venir. Jude était un heureux serviteur, puisque Dieu a permis qu'il écrivît son titre à la suite de son propre nom. Est-ce notre ambition que Dieu puisse nous approuver d'une semblable manière? Ce serait le sûr moyen d'être gardé de toute la corruption qui est dépeinte ici. Dans sa première épître, Pierre dit que nous avons été
élus en sainteté de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ.
1 Pierre 1, verset 2. Nous entrons dans le même chemin d'obéissance que le Seigneur lui-même. Nous sommes constitués des adorateurs à notre conversion. Mais ici, quand le chemin est en vue, il s'agit d'obéir et de manifester dans ce monde la valeur du sang de Christ. Il est bon de nous répéter, à nous tous qui vivons dans un monde où la propre volonté se développe de plus en plus dans tous les domaines, que l'énergie du croyant est dans l'obéissance. Il n'y a pas de fermeté comparable à celle-là. Si nous étions parfaitement obéissants, nous serions fermes jusqu'à la mort. Rien ne nous ferait reculer. Le témoignage est avant toute chose l'amour pour le Seigneur, l'obéissance au Seigneur. C'est cela seul qui nous séparera de beaucoup de choses. Pensons davantage que nous sommes entièrement à lui, que notre vie est à lui. Que de fois nous parlons du Seigneur comme de notre Maître tout en lui désobéissant. Nous invoquons son nom sur nos désobéissances, sur nos décisions de propre volonté. Il semble que Jude veut nous entraîner après lui quand il ajoute « frère de Jacques ». Il dit « j'ai un maître, je suis son esclave, son heureux esclave, mais j'ai aussi un frère qui court après lui, car certainement ils étaient frères selon la chair, mes frères dans le Seigneur. Il y a de la place pour tous. » Les trois qualificatifs de ceux auxquels il s'adresse sont bien remarquables.
Aux appelés, bien-aimés en Dieu le Père et conservés en Jésus-Christ.
De ces trois caractères, aucun ne vient de l'homme naturel, c'est Dieu qui les donne. Ainsi, avant de décrire le naufrage, l'apôtre nous présente la place sûre de ceux qui sont sur le rocher où Dieu les a mis. Il va faire un tableau très sombre. Par contraste, il n'y a pas d'hésitation, pas de doute, quant à la position des vrais croyants. Ce n'est pas parce que tout va crouler que le fidèle n'est pas sur le roc et qu'il n'a pas à le sentir. Au contraire, Dieu nous le dit et c'est un réel encouragement pour la foi. Il n'y a que celui-là d'ailleurs. Dieu met les siens à l'abri et il le leur dit avant de leur parler de la ruine de tout. Nous trouvons plusieurs fois dans le Nouveau Testament, d'une part, la certitude chrétienne de la vraie foi, d'autre part, l'affirmation de la part de Dieu de la puissance du mal et de la ruine complète qui atteindra le témoignage. Pour que nous ne perdions pas de vue que Dieu est avec nous, que nous n'avons rien à craindre, les ressources sont données, elles ne font pas défaut jusqu'au bout. Il est donc particulièrement doux de lire le souhait du verset 2. Dans bien des épîtres, nous voyons la grâce et la paix souhaitées aux saints. Mais ici, nous trouvons
que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés.
Dieu veut nous bénir tels que nous sommes. Il sait de quoi nous sommes faits. Il comprend notre faiblesse et use de compassion à notre égard. Cela est, répétons-le, d'une grande douceur, car chacun de nous sent combien nous avons besoin de ces tendres compassions de notre Dieu qui veut continuer à nous bénir malgré tout ce que nous sommes. Ses bien-aimés ont du prix pour lui, et le Seigneur Jésus nous tient dans sa main, selon la pensée de Dieu lui-même. Cela n'empêche pas que, dans la pratique, nous sentions notre faiblesse, et il est bon de la sentir pour nous attendre à ses compassions
qui se renouvelle chaque matin.
Puis il y a la paix, terrain précieux sur lequel l'œuvre de Christ nous a placés. De plus, en nous tenant près de lui, nous réalisons un peu sa paix à lui dans une conformité de marche et de pensée avec lui. Et enfin, l'amour, la chose la plus précieuse pour nos cœurs. L'amour de Dieu, l'amour du Fils, cet amour qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il est heureux de voir que, pour un temps de ruine, comme celui de Jude, ces choses sont multipliées. Il y a abondance. Dieu n'est pas à court pour bénir les siens dans ces temps où l'apostasie finale se prépare. Heureux sommes-nous si nous ne mettons pas d'entrave à la bénédiction. La tempête est forte, tout va de mal en pis. Mais pour le cœur du croyant, tout est stable, parce que c'est le travail de Dieu. Il est bon de noter que nous n'avons pas ici de pensée en rapport avec une assemblée, mais en rapport avec l'ensemble des croyants. Cela mérite d'être retenu, parce qu'ainsi nous sont montrées la large portée de cette épître et les ressources inépuisables mises à la disposition de tout croyant dans le temps de son pèlerinage. Verset 3.
Bien-aimés, quand j'usai de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints.
Avec le verset 3 commence le sujet de cette lettre. Jude désirait écrire aux saints pour leur parler du salut dont nous allons hériter. Il était heureux de s'en occuper avec eux. Mais quelque chose s'est présenté à son esprit. Le mal était à l'horizon, il allait grandissant. On essayait de renverser ce que Dieu avait donné, et, comme dit un psaume,
« Si les fondements sont détruits, que fera le juste ?»
Aussi, l'apôtre doit-il jeter un cri d'alarme. Il n'est pas maître de ce qu'il a à dire. Il ne fixe pas lui-même la nature de ses enseignements. Il est dans la nécessité de leur écrire sur un autre sujet. Nous trouvons bien là le caractère de l'esclave, ce titre qu'il a invoqué au commencement. Quel exemple pour tout serviteur! Pouvons-nous regretter de ne pas savoir ce qu'il aurait pu dire avec intelligence? Dieu n'a pas permis que nous le sachions, mais il a voulu que nous sachions ce qu'il a écrit, pour établir un barrage contre le mal et, à de certains moments, cela est plus important qu'une activité proprement positive. Combien ce qu'il écrit est de circonstances pour nous qui, aujourd'hui, approchons du dénouement. Il nous appartient de retenir tout particulièrement les termes de la lettre qu'il a écrite sous l'empire de la nécessité. L'apôtre exhorte
à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints.
Depuis bientôt 2000 ans, de quel profit ont été ces versets pour ceux qui ont su les lire? Que de fois il a fallu livrer des batailles
pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints.
La foi, ici, c'est la doctrine. L'activité des saints doit être dans la communion de Dieu en tout temps. Ainsi en était-il pour ceux qui étaient revenus de la captivité. Il fallait d'abord que l'autel fût établi sur son emplacement et que les fondements de la maison fussent posés. C'était nécessaire. Mais vient un moment où il faut penser aux murailles. Il faut qu'elles ne soient pas renversées. Les ennemis disaient que, les murailles n'étant pas fortes, un renard les ferait tomber. C'est ce qu'ici l'ennemi cherche à faire. Il fallait poser les fondements, mais aussi réaliser la séparation d'avec le monde, être pour Christ, tandis que l'homme et son iniquité prévalent. Ce qui est appelé ici la foi est un grand trésor. Saurons-nous jamais le prix de toutes les vérités que Dieu a consignées dans sa parole et que nous possédons, établies dès le commencement ? Il faut combattre pour garder cette foi parce que l'ennemi est vigilant pour l'attaquer. On voit la fidélité du Seigneur envers les siens. Il savait d'avance que le témoignage chrétien ferait faillite extérieurement et il donne d'avance une provision d'avertissement et d'encouragement pour le fidèle. Nous en avons bien besoin aujourd'hui, plus même que les croyants du temps de Jude. Il n'y a plus un Jude aujourd'hui, à proprement parler, mais il peut y avoir cependant des Judes qui, appelés par le Seigneur lui-même, se trouvent dans la nécessité de faire comme lui, chacun selon sa mesure. Nul que le Seigneur et l'Esprit-Saint ne dictaient à Jude ce qu'il avait à écrire. Nul ne savait, comme le Seigneur, les besoins divers et profonds de son peuple dans ce temps-là, et dans les temps à venir. Le ministère inspiré, dans son principe, est d'une valeur et d'une importance que rien ne remplace. Le temps de ce ministère est révolu, mais tout service exige beaucoup de dépendance. Alors il s'accomplit sans aucune préméditation, sans aucun conseil humain, et sous la seule nécessité d'être obéissant au Seigneur. Nous devrions nous appliquer à réaliser cela, non pas pour donner une parole inspirée comme Jude, mais pour lire la parole inspirée que nous avons. Que le Seigneur veuille maintenir et susciter au milieu des siens de tels esclaves. Verset 4.
car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ.
Combattre pour la foi, cela peut s'entendre de plusieurs manières. Souvent, c'est simplement présenter la vérité en face de la corruption. Car, dans Jude, nous avons essentiellement le reniement de l'autorité du Seigneur et Maître et la dissolution, la corruption morale. Il y a lieu de présenter la vérité en rapport avec ces deux choses-là. Que de fois aussi des saints ont combattu en attaquant l'adversaire, en répondant même par des écrits à ses insinuations et à ses attaques. La vie chrétienne tout entière est un combat, c'est l'un de ses caractères. Il s'agit ici de mettre en garde contre des gens qui se sont glissés dans le christianisme naissant. Depuis lors, ils sont devenus légion, plus nombreux probablement que les vrais chrétiens. Nous trouvons chez tous les apôtres cette douleur de prévoir ce que l'ennemi ferait dans le témoignage. Elle est, malgré tout, contrebalancée par la confiance dans le Seigneur. Pour nous qui n'avons pas à prévoir, mais qui constatons les dégâts dans la maison de Dieu, y aurait-il place pour l'indifférence, pour le laisser-aller ou pour le repos? Jamais. Si nous avons compris ce qu'est l'Assemblée, si nous avons été rendus attentifs au témoignage que le Seigneur a suscité pour nos temps, si nous avons conscience que le Seigneur nous y a conduits, pensons-nous que ce soit un lieu où nous puissions nous laisser vivre? Aurions-nous trouvé sur la terre un lieu de repos? En un sens, moralement, spirituellement, oui, mais dans un autre, pas du tout. En présence de la ruine et au milieu des dangers qui nous menacent, nous ne pouvons pas nous reposer. Celui qui est esclave du Seigneur combattra toujours pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Le diable a semé l'ivraie et nous verrons ce que sera la moisson. Il suffit d'avoir une notion, même très vague, de l'histoire de l'Église pour être épouvanté et comprendre la solennité des prophéties que nous trouvons ici. Et aujourd'hui, est-ce que le fait que nous sommes à part, séparés, nous abrite contre le danger que dénonçait Jude? Que de personnes se glissent parmi les saints? Nul n'oserait affirmer que parmi tous ceux qui se sont rangés dans le témoignage actuel, il n'en est pas qui se soit glissé. Cela fait sentir la responsabilité de ceux qui ont à ouvrir la porte ou à la fermer. Pour que personne ne se glisse, de ceux qui ne sont pas du Seigneur, c'est de dépendance que nous avons besoin, et non de sagesse humaine. Nous touchons là des points vitaux du témoignage de tous les temps. Ces hommes qui se sont glissés sont, avons-nous dit, caractérisés par deux faits. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution, et ils renient notre Seigneur. Cela peut se faire de bien des manières. Évidemment, ici, c'est le reniement ouvert, mais il y a des degrés dans la façon de renier pratiquement. De même, il y a diverses façons de changer la grâce de Dieu en dissolution. Le niveau moral baisse dans le témoignage. On tolère ce que l'on ne tolérait pas, et en continuant dans cette voie, on en viendrait dans quelques années à tout tolérer, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de témoignage. La fidélité des saints exige, et le Seigneur seul peut la donner, cette sagesse qui rend intransigeant pour combattre et fait comprendre que tel fléchissement aujourd'hui entraîne la ruine demain. Une telle exigence peut paraître charnelle et arbitraire, alors que, s'il y avait un Jude ou un Paul, elle serait l'effet de l'autorité. Mais c'est la spiritualité qui voit le danger avant qu'il ait éclaté. Et c'est la fidélité pure et simple au Seigneur, et en même temps l'amour pour les saints, qui poussent à signaler ce danger. Il y a des moments, comme ici, où le destin du peuple de Dieu se joue Et à ce moment-là, un Jude se lève et dit « Voilà ce qu'il en est, et il n'y a pas de transaction, de fléchissement possible. » Ou alors « Il n'y a pas de témoin, pas de fidèle. » Que le Seigneur veuille faire qu'il y en ait jusqu'au bout. Mais quel appel pour chacun de nous, afin qu'à un degré ou à un autre, nous ne soyons pas comme ceux qui se glissent et qui contribuent, sans être proprement comme les apostats, à affaiblir l'autorité de notre seul Maître et Seigneur et à faire baisser le niveau moral en tournant la grâce de Dieu en dissolution. Il y a un appel pour chacun de nous dans ces jours de la fin. L'apôtre voit et décrit ce qu'il voit en termes que nous n'aurions jamais osé employer. Il dit « c'est la ruine, le naufrage ». Mais il dit « combattez ». Voilà la foi. Au nom de la ruine, on a fait des concessions. L'apôtre n'en fait pas, parce que Dieu n'en fait pas. Il y a toujours eu des moments d'où le sort du peuple a dépendu d'une manière de faire particulière. Nous pensons à Moïse après le veau d'or. Dieu aurait pu prendre l'affaire en main et détruire son peuple. De notre côté, Moïse a intercédé pour ce peuple, mais il a revendiqué les droits de l'Éternel et des fidèles ont brandi leur épée pour s'en servir contre leur propre chair. Cela a été selon Dieu, puisqu'il a pris Lévi pour remplir un office d'honneur. Et Dieu est toujours le même, comme la foi est toujours la même. Elle sait ce qu'il faut faire pour honorer Dieu, et elle le fait. Un mot sur cette expression.
La foi qui a été une fois enseignée.
Elle avait été enseignée oralement par les apôtres. Nous avons l'Écriture et nous sommes d'autant plus responsables que, pour nous aider dans sa lecture, nous avons été enseignés et nous avons reçu des lumières par des instruments que Dieu avait choisis et formés. Nous avons reçu cela une fois et nous sommes donc responsables de combattre pour ce que nous avons reçu. Ceux qui rejettent cet enseignement auront affaire au Seigneur. Dieu n'a pas renouvelé la qualité des serviteurs de la première heure du siècle dernier, et on n'arrivera pas à retrouver ce qu'il a donné par leurs moyens si on le néglige, car Dieu ne le donnera pas deux fois.
Certains hommes se sont glissés parmi les fidèles.
Ce ne sont pas des chrétiens, mais ils aiment le prestige que donne la présence des vrais chrétiens. Ce sont
des hommes naturels n'ayant pas l'esprit,
comme nous le verrons plus loin. Par conséquent, ils n'ont que la chair, et la chair, lorsqu'elle s'imprègne de christianisme, est ou légale ou dissolue. Ici, c'est le côté de la dissolution qui nous est présenté, c'est-à-dire la destruction de tout principe moral, c'est l'apostasie morale. Cela peut du reste très bien aller de pair avec la prétention à la justice. C'est la chose la plus affreuse qui soit, parce que c'est, au fond, dire « Dieu est bon, abusons-en ». C'est un principe satanique qui s'est glissé parmi les fidèles, non pas comme une doctrine seulement, mais incarné dans les personnes qui vivent ce principe. Elles sont devenues innombrables. La parole nous parle de la grâce et de la vérité inséparablement liées. Cela ne parle que de la grâce sans la vérité. Par conséquent, c'est la dissolution. Ils n'ont plus de crainte de Dieu, tout en ayant la prétention d'être justes. Ce principe se développe d'une façon inouïe aujourd'hui, et il risque de nous gagner. Ce n'est pas tant le légalisme pur qui est un danger aujourd'hui pour nous. On ne le voit guère retenu comme principe général. À une âme qui tente à tomber dans le légalisme, il faut lire Romains 7. Mais aujourd'hui, on éprouve si peu le besoin de lire Romains 7 que c'est symptomatique. Un point pratique à souligner pour nous tous c'est que dans cet effort pour changer la grâce de Dieu en dissolution, s'affirme un manque de conscience. Il est bon de rappeler que l'accroissement des connaissances peut très bien aller avec un abaissement de la conscience. Le monde aujourd'hui est d'un niveau plus élevé qu'au temps de Jude à certains égards, mais sa conscience n'est pas délicate, elle n'est pas plus près de Dieu. Et si la connaissance chrétienne ne rend pas notre conscience plus délicate, elle se tourne contre nous, car nous changeons la grâce de Dieu en dissolution. Ici, il s'agit des inconvertis, des incrédules, des simples professants. Mais si nous ne veillons pas, nous risquons tous, à quelque degré, de contribuer à changer la grâce de Dieu en dissolution, en disant « Puisque le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché, Dieu supporte, Dieu pardonne, Dieu oublie, etc. » On lâche la bride à la chair, et c'est de cette façon que le témoignage fléchit. Non pas que l'on traduise toujours cela en doctrine, mais les faits, dans leurs détails, introduisent la faiblesse morale. Il ne faut pas lire cette épître pour les catholiques ou pour les protestants ou telle dénomination, il faut la lire pour nous. Faire autrement, c'est oublier deux choses. D'abord, le gouvernement de Dieu, autrement dit son jugement temporel et temporaire, et puis le jugement total de toute chose, même pour le chrétien, celui où Christ appréciera tout. Là où il n'y avait pas de vie, ce sera le jugement éternel. Nous pouvons donc nous encourager à veiller, comme nous le chantons, que notre âme soit vigilante. Trop souvent, nous nous contentons d'un christianisme facile, marqué de laisser-aller et d'abandon moral. Ce n'est pas là la vérité de Dieu. À chacun de nous d'y prendre garde. Que de fois l'apôtre Paul parle de la conscience, de sa conscience d'apôtre. Nous avons assurément à reconnaître que nous manquons tous de diverses manières, mais il y a une différence. Ici, ceux qui manquent ne se jugent pas. La chair est nourrie et entretenue. Le chrétien, s'il a de la piété, lorsqu'il manque, se juge, et il souffre. C'est là ce que nous devons nous encourager à faire. Ainsi, cette première expression, qui change la grâce de Dieu en dissolution, place devant nous un sujet que chacun doit considérer attentivement. Toute notre vie, nous avons à y prendre garde. Ce qui rend ce sujet si solennel, c'est qu'il s'agit de la grâce de Dieu. Faire servir au mal ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus pur, mépriser et tordre à ce point l'enseignement de cette grâce. Certainement mieux vaudrait un catholique sans connaissance, mais converti, et qui tremble à la parole de Dieu, qui craigne Dieu selon la bonne crainte, plutôt qu'un frère chargé de connaissance et à la conscience endurcie. Entre les deux, le Seigneur n'hésite pas. Les frères qui ouvrent la bouche dans diverses réunions sont responsables pour eux-mêmes, encore plus que les autres, et responsables aussi de la manière dont ils exposent la parole à d'autres. 2 Timothée 2, verset 15.
Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité.
Quand un homme est converti, est-ce qu'on aime à trouver chez lui un étalage de beaucoup de connaissances? Non, ce qu'on aime à trouver, c'est la crainte de Dieu, l'amour du Seigneur, la paix, le besoin de communion avec Dieu. Voilà un critère qui ne ment pas. La crainte du Seigneur n'est-elle pas maintenant souvent remplacée par l'indépendance qui peu à peu a gagné dans tous les domaines? Remarquons que cette épître s'adresse à
« vous qui une fois saviez tout ».
L'apôtre n'écrit pas à des ignorants. Nous aussi, nous avons été instruits dans les vérités qui ont été présentées une fois. Nous avons la responsabilité de marcher selon l'enseignement que nous avons reçu, et de regarder en particulier aux avertissements qui sont donnés ici. Il faut prendre garde chacun pour son compte, selon les enseignements de la parole, de peur que nous ne glissions vers ceux qui renient le Seigneur. Nous disons que Jésus est notre Seigneur et Maître. L'est-il en réalité pour nous? Pensons aussi que nous devons garder dans nos cœurs la grâce de Dieu, la vraie grâce dans laquelle nous sommes. 1 Pierre 5, verset 12.
Vous exhortant et attestant que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu.
Mais il faut nous souvenir que son action est basée sur la justice. Si Dieu opère envers nous en bonté comme il le fait, c'est que cela a été payé fort cher. Y penser lie nos âmes au sacrifice de Christ et leur donne un sentiment de reconnaissance, de respect, de soumission et de dévouement. Le Seigneur est honoré par une sainte crainte. Tandis que ceux dont Jude parle ici font juste le contraire, ne se souciant pas des droits que le Seigneur a acquis sur nous par sa mort, ils le renient comme leur Seigneur et Maître. Un des caractères essentiels du peuple de Dieu, le peuple terrestre et à plus forte raison le peuple céleste, le vrai peuple de Dieu, est la sainteté, une sainteté non pas extérieure, mais dans l'obéissance et la soumission au Seigneur. Comme la vie chrétienne est simple, droite, heureuse, puissante, mais à cette condition. Le chrétien le plus précieux au Seigneur est celui qui marche dans la sainteté et qui veille à l'obéissance. Nous qui baignons d'une façon privilégiée dans l'atmosphère chrétienne, nous avons à veiller pour être gardés de la chair religieuse. C'est difficile, mais le Seigneur veut nous tenir en éveil par toutes sortes d'exercices. Il veut que nous nous attendions à lui, que nous prions beaucoup pour son peuple, mais il veut que nous soyons fidèles et que nous n'appelions pas le mal bien, le bien mal, la chair l'esprit et l'esprit la chair. Quel repos l'on trouve dans la poursuite de ces choses, la sainteté, l'obéissance au Seigneur, le sentiment des droits du Seigneur. Le cœur est en paix et jouit de Dieu. La présence de Dieu se fait sentir, c'est le ciel sur la terre. Tandis que le cœur des méchants est comme une mer agitée. Que de fois le cœur des chrétiens est comme une mer agitée qui rejette dehors la vase et la boue. Ésaïe 57, verset 20.
Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se tenir tranquille et dont les eaux jettent dehors la vase et la boue.
Verset 5.
Or, je désire vous rappeler, à vous qui une fois saviez tout, que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, a détruit ensuite ceux qui n'ont pas cru.
Dans les versets suivants, plusieurs exemples montrent que les caractères de l'apostasie étaient apparus dès longtemps. Il est d'abord parlé du peuple d'Israël, qui avait été délivré du pays d'Égypte, de la servitude. Et pourtant, sur un peuple qui comptait près de 600 000 hommes sur le pied de guerre lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, deux seulement sont entrés dans le pays de la promesse. Deux seuls ont été fidèles jusqu'au bout.
Dieu a détruit ensuite ceux qui n'ont pas cru.
Un jugement était prononcé contre eux. Ils sont tous tombés dans le désert pour ne pas avoir su glorifier Dieu en croyant à sa parole et en lui obéissant. Ce premier exemple est peut-être celui des trois qui est le moins frappant quant au mal. Il semble moins frappant que celui des anges qui ont péché ou que celui de Sodome. Mais le jugement n'est pas moins sévère. Tout ce peuple avait connu la nuit de la Pâque, la traversée de la mer Rouge, il avait chanté le cantique, il avait entendu annoncer la parole de Dieu, et puis il a été décimé le long du désert, bien qu'ils eussent tous été
baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer.
C'est une image de la profession chrétienne. Mais, dit l'Épître aux Hébreux,
La parole n'était pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent.
Il ne suffit pas d'entendre la parole et de savoir beaucoup de choses sur elle. Il faut l'avoir crue et reçue. C'est la parole implantée. Et Dieu ne parle pas des Israélites aux chrétiens que nous sommes pour faire de l'histoire ancienne, mais pour développer le principe moral de tous les temps, à savoir qu'on est en relation vivante avec Dieu que par la foi. Tout ce qui n'est qu'extérieur sans vie est une forme d'apostasie, quelque fidélité apparente qu'il puisse y avoir. Que de fois ce peuple, le long du désert, a provoqué Moïse à la colère, et Dieu aussi. Pas de foi, pas de vie, pas de réalité, une profession qui couvre le germe de l'apostasie. C'est vrai aujourd'hui plus que jamais. De l'immense peuple chrétien qui s'est engagé dans le chemin du ciel, a été baptisé dans la nuée et dans la mer, combien seront tombés en route ? Dieu sera-t-il obligé de nous frapper, nous aussi, nous qui possédons la révélation complète de Dieu ? Nous sommes plus responsables encore que n'était le peuple d'Israël à cette époque. À ce sujet, il est terrible de constater qu'il y a une grande différence entre ce qu'est l'Assemblée aujourd'hui et ce qu'elle était au commencement, où on pouvait dire qu'elle était une garantie pour le chrétien. Il y avait une telle puissance que la première tentative de l'ennemi pour introduire le mal par un simple mensonge a été enrayée tout de suite et par la mort. Aujourd'hui, l'on ne peut pas dire que l'Assemblée soit une garantie, et non seulement ce qu'on pourrait appeler l'Assemblée extérieure, mais même pas ce que le Seigneur a suscité comme témoignage représentant l'Assemblée réelle dans ces derniers jours. De plus, l'autorité apostolique, quand elle était là, était une sauvegarde, et s'il le fallait, Paul usait de sa puissance. Cela n'est plus, et que de choses ont remplacé Paul pour ceux qui se sont glissés. Il ne suffit pas de se réclamer du nom du Seigneur extérieurement, comme tout le peuple se réclamait du nom de l'Éternel. Il faut avoir cru. Ceux qui n'ont pas cru sont tombés. Lorsque la foi est réellement là, la foi que Dieu a donnée, elle regarde ces choses en face, mais avec le tremblement qui convient. Les 10 vierges s'étaient mises en route ensemble, mais il y avait entre elles cette différence fondamentale que quelques-unes n'avaient point d'huile, et c'est au bout d'un certain temps que la distinction s'est faite. Elles étaient parties ensemble, avaient suivi le même chemin, mais, au moment voulu, ce qu'il y avait dans les lampes des unes et des autres a été révélé. Nous nous souvenons aussi de toutes les paroles du Seigneur dans l'Évangile.
Luttez pour entrer par la porte étroite. Étroite est la porte, resserrez le chemin. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus.
Voilà les vérités élémentaires, mais immuables. Nous ne pourrions affaiblir ces déclarations, et elles prennent toute leur portée au temps où nous vivons. On a souvent entendu dans les conversations des frères et des sœurs avancés en âge, expérimentés, ayant vu des générations, exprimer le regret que les conversions nettes se fassent rares. Nous pouvons prier pour que Dieu en manifeste. Ce premier exemple montre donc qu'il ne suffit pas de posséder les oracles de Dieu, il faut les garder dans son cœur, tenir ferme comme Caleb et Josué. Le peuple est tombé parce que c'était un peuple incrédule. Délivré, il préfère l'Égypte, le monde. Hébreux 3, verset 19.
Et nous voyons qu'ils n'y purent entrer à cause de l'incrédulité.
Et le chrétien qui n'est que professant, les chrétiens fidèles sont aussi des professants, est au fond un mondain couvert de christianisme. Il préfère le monde à Christ. Jetons un coup d'œil sur le passage de Nombre 13-31 où Caleb dit
« Montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. »
Ce passage est très instructif comparé à celui d'Hébreux,
la parole qu'ils entendirent.
Voilà comment parle un homme dont le cœur n'était pas en Égypte. La foi, l'énergie de la foi, l'activité, la vie se manifestent dans l'attitude de Caleb.
Montons hardiment et prenons possession du pays.
C'est là la clé de tout le problème. La parole reçue était mêlée avec de la foi, une foi vivante, opérante, qui déploie toute son énergie pour aller de l'avant, qui fait taire ceux qui veulent résister à la pensée de Dieu. Ceux qui sont tombés dans le désert représentent donc les professants sans vie et les apostats. Un homme peut avoir une vie extérieurement irréprochable jusqu'à sa mort. S'il n'a pas la vie de Dieu, mais seulement une profession chrétienne, il est de ceux qui tombent dans le désert, qui subissent le châtiment sans rémission, il n'entrera pas dans le ciel. Remarquons à ce propos que la question de la discipline chrétienne n'est pas soulevée dans l'épître de Jude. Un vrai chrétien, quelqu'un qui a la vie, qui a cru, qui fait partie du peuple, peut avoir manqué au point qu'il soit retiré de la scène. Mais il n'est pas de ceux qui sont tombés dans le désert. On pourrait dire, en un certain sens, que Moïse, qui n'est pas entré dans le pays mais que Dieu a pris sur la montagne, représente ce cas, tandis que les hommes qui sont tombés dans le désert représentent tous les professants qui n'ont pas la vie, même s'ils en ont l'apparence. Notre temps est, au moins d'un côté, plus difficile que celui du commencement du christianisme. Au commencement, il y avait les Juifs, l'Assemblée et les Grecs ou les païens. Très vite, il y a eu une catégorie de personnes de plus, les professants sans vie, et nous sommes mêlés à eux, ils se sont mis partout. Il n'y a certainement pas une région chrétienne qui soit exempte de la présence de ces professants sans vie. Il faut donc beaucoup de vigilance pour la vie de chacun et pour le témoignage lorsque le Seigneur nous a ouvert les yeux sur ce qu'est ce témoignage. Si nous n'avions pas toutes ces épîtres qui nous parlent de la ruine, nous pourrions être parfois assez embarrassés. Heureusement, Dieu nous a avertis d'avance de ces choses, et l'Apocalypse elle-même nous prévient pour que nous ne soyons pas surpris de voir cet acheminement de la chrétienté et pour que nous nous tenions sur nos gardes afin d'éviter d'être emporté par ce courant, non seulement comme individu, mais comme témoignage collectif. Il ne faudrait pourtant pas que nous soyons découragés en lisant ces lignes de l'apôtre. Il nous faut regarder en haut vers le Seigneur, fixer nos yeux sur lui et être occupés non pas du mal, mais du bien. Si nous sommes occupés uniquement du bien, Dieu nous gardera du mal. Dieu nous parle du mal pour nous mettre en garde contre lui, non pas pour que nous en nourrissions nos âmes. Mais il est indispensable que nous ayons ces écrits pour que nos yeux soient ouverts afin de discerner le chemin de l'erreur et le chemin de Dieu. Verset 6.
Et qu'il a réservé dans des liens éternels sous l'obscurité pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur origine mais qui ont abandonné leur propre demeure.
Puis nous avons un deuxième exemple, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Voilà une catégorie d'êtres que nous ne nous serions pas attendus à trouver ici. Ce qui les caractérise a été lié à un moment donné à l'histoire de l'homme, avant le déluge. C'est un fait mystérieux, sur lequel la parole est très sobre, Genèse 6, mais qui nous montre à quel degré de corruption l'humanité était arrivée. Des anges ont participé à cette corruption et à ce désordre moral que le déluge a balayé. Ce n'est pas la chute de Satan et de ses anges, c'est la chute d'anges qui ont péché avec des êtres humains, qui n'ont pas gardé leur origine, c'est une forme d'apostasie. Ils ne sont pas restés dans l'état où Dieu les avait placés. Juste avant le déluge, à propos de ce fait, Dieu dit que
« toute chair avait corrompu sa voie sur la terre »,
la voie où Dieu l'avait mise. Dieu nous montre par là combien il est sensible au désordre moral, sensible au fait que ses créatures sortent de leur place. Aujourd'hui, on oublie aussi la pensée de Dieu à l'égard de beaucoup de choses. Les libertés d'allure que les hommes prennent dans le monde chrétien, ce que l'on appelle être avancé, sont donc une forme et un fruit de l'apostasie. Évidemment, on a avancé vers le moment où l'apostasie sera générale. Verset 7.
Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes d'alentour, s'étant abandonnées à la fornication, de la même manière que cela, et étant allés après une autre chair, sont là, comme exemple, subissant la peine d'un feu éternel.
Maintenant, il est question de Sodome et Gomorrhe,
abandonnés à la fornication de la même manière que cela.
Elles
sont là, comme exemple, subissant la peine d'un feu éternel.
Les anges sont gardés pour le jugement du grand jour, sous l'obscurité, réservés dans des liens éternels. Ce n'est pas encore le jugement final, mais ils sont là en attendant ce jugement. Tandis que pour Sodome et Gomorrhe, le jugement était définitif. Elles subissent la peine d'un feu éternel. On ne se moque pas de Dieu. Et ce n'est pas en vain qu'on lui désobéit ou qu'on abandonne la position où il nous a mis. Ainsi, le jugement de Dieu est tombé sur son peuple, sur les anges qui n'ont pas gardé leur origine et sur ces villes qui ont été détruites. Tout cela doit produire en nous de la crainte et aussi de la reconnaissance envers Dieu de ce qu'il nous a fait connaître sa sainteté. Il a répondu à la corruption où nous étions, dans notre nature, par la croix de Jésus. Il disait à son peuple terrestre, qui n'était pas converti, en tout cas pas dans la masse,
« Soyez saints, car moi je suis saint. »
C'est là la première manière de glorifier Dieu. S'il n'y a pas de sainteté, on peut se réclamer de tous les titres, avantages et privilèges, on jette par terre la première gloire de Dieu. Il est une chose que nous pouvons méditer. Dieu, qui est saint, a trouvé bon pourtant de nous occuper du mal. On aurait pu s'attendre à ce que Dieu ne parle que du bien. Eh bien non, sa parole est un livre où le bien et le mal se mêlent sans cesse. Pourquoi présente-t-il ainsi le mal? Parce qu'il décrit l'homme. Il en donne une image vraie. Alors, si l'on a quelques prétentions à moraliser l'homme et à l'améliorer, il suffit d'être placé devant ces faits qui prouvent que cet homme ne peut être changé pour que l'on n'ait plus rien à dire. Répétons que ces avertissements ne sont pas donnés à des païens, mais à des chrétiens. C'est donc que Dieu ne fait pas plus fond sur la chair du chrétien que sur celle du païen. Quand nous sommes amenés à penser comme lui, c'est une bienheureuse délivrance. Et par là, les souffrances expiatoires du Seigneur sont mises en honneur et en évidence. Le Seigneur n'est pas mort pour rien. La coupe qu'il a bue est celle de la colère de Dieu contre ces choses-là que nous étions capables de faire et contre leur source profonde, le péché. C'est dans le ciel que nous aurons l'intelligence de ce que le Seigneur a fait, parce que nous comprendrons alors la sainteté et la gloire de Dieu. Mais, chose étonnante, les principes de corruption qui ont marqué dès anciennement l'histoire de l'homme se retrouvent dans le christianisme. Et en lisant le tableau qui est donné de la grande prostituée, nous voyons que parmi ces caractères figure l'immoralité. Aussi, quel jugement tombe sur elle. Souvenons-nous qu'à Sodome, il y avait un juste qui aurait mieux fait de ne jamais entrer là. Ce fait annule les déclarations d'après lesquelles il faudrait nous mêler au monde pour aider à le remettre en bon état devant Dieu. Nous avons à être vigilants quant à la corruption morale. Il semble bien que ce sera le côté faible du témoignage dans les derniers temps. Et cette corruption morale, l'absence de sainteté pratique, peut très bien aller de pair avec des discours vains et orgueilleux, de fausses doctrines, dans l'abandon plus ou moins marqué du christianisme.
Verset 8. De la même manière, ces rêveurs aussi souillent la chair et méprisent la domination et injurient les dignités.
Ces rêveurs sont ceux qui s'abandonnent à leur imagination et ne laissent pas agir l'Esprit de Dieu en eux. Nous n'avons pas le droit d'avoir de pensée propre sur les choses de Dieu. Les pensées que nous avons sont nulles, ce sont des pensées de pauvres pécheurs. Ce qui compte, c'est la pensée de Dieu. Nous en sommes remplis, dans la mesure où nous nous tenons devant lui, où nous lisons la parole, où nous ne contristons pas l'esprit. Alors, au lieu de mettre en avant notre façon de voir et de nous justifier, nous disons « Voilà ce que Dieu pense ». Un abîme sépare le fait d'avoir une pensée sur la parole de Dieu et celui d'avoir la pensée de Dieu dans sa parole. Nous pouvons bien chacun sentir le besoin, non pour les autres mais pour soi-même, d'être gardé dans la crainte du mal, de la souillure et d'avoir une volonté brisée.
Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé.
Et c'est là le vrai bonheur sur la terre, le bonheur du ciel. Verset 9.
Mais Michel l'archange, quand, discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui. Mais il dit « Que le Seigneur te censure !»
Après Sodome vient l'exemple de Michel l'archange,
quand, discutant avec le diable,
il n'a pas osé
proférer de jugement injurieux contre lui.
Cette scène ne nous est pas rapportée dans l'Ancien Testament, mais Jude avait la pensée de Dieu. Dieu ne nous a pas tout dit, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, comme nous le voyons à la fin de l'évangile de Jean. Mais il nous en dit assez pour que nous n'ayons pas d'excuses si nous marchons mal. Tous ces exemples nous font comprendre l'importance qu'il y a à ne jamais donner dans le courant du présent siècle qui dit « Il faut s'adapter au temps, se moderniser, on ne peut vivre et avoir les principes d'il y a 20, 50 ou 100 ans ». Il nous faut vivre avec les principes du début, ceux même de la Genèse à certains égards. Il nous faut remonter au début du christianisme ou à la création. Ne contribuons pas par notre façon d'être à affaiblir le poids de la parole de Dieu, à créer ou à entretenir ce courant de l'apostasie dans les esprits. Quant au mépris du diable, nous en sommes les témoins quotidiens. Si nous avions conscience de la puissance du diable en séduction, nous tremblerions d'une crainte salutaire. Nous nous rejetterions davantage sur Dieu, nous ne jouerions pas avec le mal, nous nous en tiendrions le plus loin possible. La parole nous dit qu'il rôde, cherchant qui il pourra dévorer. C'est un fait permanent, non pas qu'il soit partout, comme Dieu l'est, mais il a les moyens d'aller çà et là, de se promener, comme il est dit dans Job. Il connaît le cœur de l'homme depuis longtemps, et il sait comment le prendre. À cet égard encore, l'assemblée n'est plus une garantie.
Certains hommes se sont glissés.
Dans une des lettres aux sept assemblées, nous lisons
« Tu habites là où est le trône de Satan. »
C'est une raison de plus d'être vigilant. On pose quelquefois la question « Pourquoi semble-t-on si difficile pour les admissions à la table du Seigneur, par exemple ?» C'est qu'on est bien obligé de veiller parce que Satan a pénétré dans la chrétienté même. Un chrétien qui n'aurait pas la doctrine de Dieu, qui renverserait la vérité, soit doctrinale, soit morale, nous ne pourrions pas le recevoir sans être infidèles au Seigneur, bien qu'il soit un vrai chrétien. Ces deux choses, un vrai chrétien et une fausse doctrine, hélas, ne sont pas incompatibles. Tout est grâce, tout est bonté de la part de Dieu, mais on ne jouit pas de la grâce et de la bonté sans poursuivre la sainteté. C'est inséparable. Dieu n'abandonne aucune de ses gloires, aucun de ses droits, et c'est précisément pour n'abandonner aucun de ses droits qu'il a dû frapper son Fils. On dit « Dieu est tout amour ». Sans doute, mais qu'ont été les 3 heures pour le Seigneur sur la croix. Verset 10.
Mais ceci, ils injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement, comme des bêtes sans raison.
Quelle comparaison! Ceci, en contraste avec les bien-aimés auxquels écrit Jude, n'ont aucune intelligence des pensées de Dieu. On retrouve les deux caractères vus précédemment. Ils injurient et se corrompent. Aussi, un jugement doit-il être prononcé contre eux. Malheur à eux. Ceux-ci font partie de la chrétienté, non pas d'une autre dispensation. Ils se sont glissés parmi les fidèles. Ils sont là, nous pouvons les coudoyer.
Seul celui qui est spirituel discerne toutes choses.
1 Corinthiens 2, verset 15.
Vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses.
1 Jean 2, verset 20.
Ceux-ci injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas.
Le chrétien spirituel a la connaissance des pensées de Dieu révélées dans sa parole. Ceux-ci ne connaissent rien. Ils se corrompent dans tout ce que l'intelligence humaine peut comprendre naturellement. Ils n'ont aucune pensée de Dieu, comme des bêtes sans raison. Nous devons donc désirer la sagesse qui est de Dieu, la seule sagesse qui soit pour connaître les pensées de Dieu, comprendre ce qu'il nous révèle et qui est à notre portée. Job 28, verset 28, donne un enseignement quant à la sagesse et quant à l'intelligence.
Voici la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse, et se retirer du mal est l'intelligence.
Du fait que des éléments se sont glissés parmi les fidèles et sont entrés dans ce qui constituait le témoignage de Dieu, il est évident que la puissance de l'Esprit de Dieu ne s'est plus manifestée de la même manière. Cela explique bien des choses. Dieu supporte ce mal jusqu'à l'heure où il le jugera. Mais en attendant qu'il le juge, et tout en le supportant, Dieu montre qu'il ne l'approuve pas en restreignant la puissance qu'il manifeste au milieu des croyants. Il nous faut veiller soigneusement à ce qu'il ne se glisse rien parmi les fidèles qui soit susceptible d'affaiblir ou même de détruire la force pratique du témoignage. Il faut que nous ayons à tout prix cette pensée que le témoignage des dernières heures où nous sommes arrivés n'est pas la restauration de l'Église, et que nous n'avons pas à en avoir la prétention. Ce serait nier le mal qui s'est glissé à l'origine, et ce serait par conséquent de l'orgueil et de l'inconscience. Nous devons avoir conscience de ce que l'ennemi a fait au milieu des croyants, de ce qu'il a continué à faire, et de ce que nous avons laissé faire. C'est une chose solennelle de penser que dans le vase du témoignage chrétien se sont introduits des éléments qui étaient du mal. Le témoignage est en ruine, et c'est une saine pensée que d'en être convaincu, alors qu'autour de nous, il y a souvent des rêveurs qui prétendraient bâtir un témoignage analogue à celui du commencement. Deux caractères essentiels de ces rêveries se constatent dans la chrétienté. D'une part, la superstition, et d'autre part, le rationalisme, les deux produisant des effets analogues, savoir l'éloignement de Dieu et la corruption. Ceux-ci, qui injurient ainsi les dignités, ne sont pas des païens. Ce sont des gens qui ont été imprégnés du christianisme et qui vivent au sein de la sphère chrétienne. Nous voyons cela tous les jours. On jure au nom de Dieu, au nom du diable, indistinctement, sans crainte. Nous trouvons dans cette épître plusieurs fois « sans crainte ». L'absence de crainte ou l'affaiblissement du sentiment de la crainte, même chez les croyants, est un des signes les plus marquants de ces derniers jours, beaucoup plus marquant qu'un fléchissement quant à la connaissance. Il faisait des festins avec les fidèles, sans crainte, mêlant le bien et le mal. Combien de gens aujourd'hui ont fait, comme on dit, leur première communion, ont été plus ou moins élevés au contact de la Bible jusqu'à 10, 12 ou 15 ans, puis jettent tout par-dessus bord et injurient Dieu, le diable, tout ce qui est au-dessus d'eux, dans une folie qui se généralise. Le chrétien doit trancher au milieu de cette masse. Si Dieu nous a appris comment les choses se sont passées, comment le mal s'est introduit, cela nous rejette sur lui pour que nous fassions en effet contraste. Dans les psaumes, ces petits mots « mais moi » sont souvent répétés en contraste avec les méchants, ceux qui ne craignent pas Dieu et vivent dans l'impiété. Il est humiliant de penser que nous avons gâté tout ce que Dieu a mis entre nos mains. Si le témoignage est dans un état de ruine bien grande, nous en avons chacun notre part de responsabilité. Il faut que nous le confessions et que nous en menions deuil. Cela rappelle ce que le Seigneur enseigne dans les évangiles. Le mal a été introduit, ceux qui avaient la responsabilité de veiller dormaient, et l'ennemi a fait son travail. Dans quelle mesure n'avons-nous pas dormi et ne dormons-nous pas? Si ce que le Seigneur a suscité au siècle dernier était déjà appelé un témoignage de la ruine, de sorte que l'humilité caractérisait cette attitude dictée par la piété, que devrions-nous dire aujourd'hui? C'est la ruine de cette ruine. Combien nous pouvons demander au Seigneur qu'il nous donne de le prendre à cœur? Que de fois, si on se laissait aller, on dirait « il ne faut pas s'occuper de ces tristes choses ». Et pourtant, la parole nous en occupe pour nous avertir. La vigilance est nécessaire toujours. On ne peut pas faire fond sur l'homme, chrétien ou non, et le Seigneur avertit, par Jude et par d'autres apôtres, que le mal le plus grave aura lieu à la fin et au sein du christianisme. Dieu ayant donné sa parole, son esprit, la révélation totale de sa pensée, l'homme se corrompt. Il ne faut pas que nous soyons ignorants de ce dont nous sommes capables, parce que, alors, ce sont des surprises douloureuses. Notre ressource, c'est le Seigneur. Il nous faut prier beaucoup le Seigneur pour qu'il se souvienne de son témoignage et de sa propre gloire. Nous verrons plus loin l'attitude que les fidèles peuvent avoir à prendre à l'égard de cet état de choses. Ils ne sont pas nécessairement passifs, au contraire.
Les uns qui contestent, reprenez-les. Les autres, sauvez-les.
Mais pour qu'ils puissent avoir cette attitude positive et active, nous verrons qu'ils doivent s'édifier eux-mêmes sur leur très sainte foi. Pour le moment, c'est le tableau du mal qui est présenté. L'attitude convenable aux fidèles sera donnée ensuite. Quoi qu'il en soit, au milieu de cette ruine, gardons-nous de découragement. S'il s'agissait de chercher la force en nous, hélas, nous n'arriverions à rien. Mais il faut regarder au Seigneur, qui est capable de nous amener jusqu'au bout sans que nous bronchions. Quel jugement de soi-même dans toutes ces choses! Dieu veut nous rappeler la position qu'il nous a donnée, le vrai Nazaréat. Verset 11.
Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense et ont péri dans la contradiction de Corée.
Veillons donc, afin de ne pas tomber dans les trois pièges que nous signale le verset 11. Le chemin de Caïn, l'erreur de Balaam, la contradiction de Corée. En contraste avec Abel, qui avait compris qu'il fallait une victime, Caïn a offert ce qui venait de l'homme, de son cœur, de son propre travail. Sa propre imagination l'avait conduit à offrir le fruit du sol maudit. Il fut jaloux de ce que son frère avait offert et il le tua. C'est la chair religieuse qui se manifeste bien avant la loi. Qu'elle soit païenne, juive, israélite ou qu'elle soit chrétienne, quelle que soit la religion qui l'imprègne, la chair produit toujours la même chose. Quelle profondeur dans la déclaration si simple donnée dans Jean.
Pourquoi Caïn tua-t-il son frère? Parce que les œuvres de son frère étaient justes et que les siennes étaient mauvaises.
Le sentiment qu'Abel faisait bien avait poussé Caïn à frapper son frère. L'homme a haï le Seigneur pour cette raison-là seulement. Les œuvres du Seigneur étaient toutes parfaites, et c'est à cause de cela qu'on l'a mise à mort. Aujourd'hui, dans la chrétienté, plus le chrétien sera fidèle, plus ses œuvres seront bonnes selon Dieu, et plus se montrera l'inimitié de la chair contre ce qui est de Dieu. C'est là un fait lié à la nature même de l'homme. Elle est Dieu et ceux qui sont de Dieu. Cette même haine a animé beaucoup de persécuteurs des croyants dans tous les temps depuis que l'épître de Jude a été écrite. Combien de gens qui se réclamaient de Dieu ont allumé des bûchers par haine pour les vrais chrétiens. Ils ont marché dans le chemin de Caïn, et il peut en être ainsi à des degrés bien divers, sans qu'on aille jusqu'au meurtre. On lit en Romains 8, verset 7,
« La pensée de la chair est inimitié contre Dieu. »
Ce n'est pas seulement la chair chez les autres, c'est la chair chez moi d'abord. Il faut toute la puissance de Dieu pour nous faire accepter une telle réalité. Mais quelle grâce et quelle délivrance quand nous avons reçu une nouvelle vie et que nous restons près de Dieu, aimant Dieu. Hélas, le mal ne s'arrête pas à suivre le chemin de Caïn.
Ils se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense.
Ici, le mal prend une tournure ecclésiastique, car Balaam était un prophète, mais un prophète qui, au lieu de rester devant Dieu, de dépendre de lui, convoitait une récompense et ne craignait pas de suivre, pour l'obtenir, des voies qui sont appelées l'erreur. Pour lui, le tout était d'avoir sa récompense, la vérité n'avait aucun prix. C'est là un terrain où se plaît l'homme naturel. Prendre une religion, des apparences, sans se préoccuper de mettre les âmes en contact avec la vérité. Le tout est d'avoir son salaire. Balaam a fait beaucoup de mal au peuple de Dieu. Il est sérieux de penser qu'un prophète qui n'accomplit pas son service sous le regard de Dieu, non seulement tombe, mais en fait broncher d'autres. L'apôtre Pierre parle lui aussi du chemin de Balaam en des termes extrêmement énergiques. L'appât du gain a conduit Balaam à deux choses. Il pensait maudire le peuple, et il a entraîné le peuple à la fornication. Il a une grande culpabilité dans l'affaire de Péor. Nombre 31, verset 16.
Voici, ce sont elles qui, à la parole de Balaam, ont donné occasion aux fils d'Israël de commettre une infidélité contre l'Éternel dans l'affaire de Péor, et il y eut une plaie sur l'assemblée de l'Éternel.
Il s'agit ici du clergé dans ce qu'il a de plus mauvais. On peut dire que tous les mauvais bergers d'Israël dont il est parlé dans les prophètes ont plus ou moins suivi le chemin de Balaam en trompant le peuple pour une récompense. Et les mauvais bergers chrétiens ne font pas autre chose. Balaam a
enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël.
Prenons garde nous aussi à ne pas mettre par notre conduite des pierres d'achoppement devant les enfants de Dieu. Tout ce qui touche à l'activité dans le domaine des choses de Dieu doit être pur de tout motif matériel, à quelque degré que ce soit. Pierre pouvait dire
« Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. »
Paul aurait pu recevoir des biens des saints, le salaire du bœuf qui foule le grain, mais il refuse de le recevoir.
Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne.
Il y a là un enseignement que nous avons à ne pas perdre de vue.
À la fin des temps, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise.
Les bergers seront dignes du troupeau. Le serviteur doit servir en étant absolument pur dans tous ses motifs, et inversement, on doit veiller à ne le corrompre en aucune manière. Cette corruption peut commencer à l'égard des choses matérielles, mais s'étendre aussi à l'activité spirituelle, et c'est peut-être le plus dangereux. On a plus d'une fois fait la perte d'un serviteur en le flattant. Un serviteur de Dieu est à traiter d'une manière digne de Dieu. 3 Jean verset 6. Mais ce n'est pas par des flatteries qu'on l'honorera, mais plutôt en marchant soi-même d'une manière digne de Dieu et qui montrera que son service a été profitable. 3 Jean verset 6.
Tu feras bien de leur faire la conduite d'une manière digne de Dieu.
L'apôtre Paul pouvait dire qu'il n'avait pas falsifié la parole de Dieu. Il n'en cachait pas une partie, car il n'était gouverné ni par la crainte, ni par l'intérêt. Ces considérations-là nous sondent et cela est bon pour nous faire garder le saint enseignement. Ce qui fait que Balaam est tombé dans cette erreur, avons-nous dit, c'est qu'il ne se tenait pas dans la présence de Dieu. Il ne pouvait pas dire comme Élie,
« L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. »
Il est dit en Nombre 24, verset 1, qu'il allait
« à la rencontre des enchantements. »
La parole de Dieu ne lui suffisait pas, il lui fallait quelque autre chose. Ce n'était pas un cœur droit, et l'ennemi a aisément trouvé le moyen de le faire broncher, en lui faisant désirer une récompense que du reste il n'a jamais eue. Il est sérieux qu'un serviteur de Dieu soit exposé à une pareille erreur. Un serviteur est le serviteur de tous, mais ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est d'altérer la vérité, elle n'est pas à lui. Il dépend de Dieu, se fait tout à tous autant que possible, mais il est esclave de Dieu seul.
Si je cherchais à plaire à des hommes, je ne serais pas un esclave de Christ,
disait Paul. Dans 2 Pierre 2, verset 15, il est dit
« Ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés, ayant suivi le chemin de Balaam, qui aima le salaire d'iniquité, mais il fut repris de sa propre désobéissance. »
Quel contraste saisissant entre ces hommes qui font des discours avec un semblant de vérité pour avoir un salaire et les serviteurs de Dieu dont il est dit
« Combien sont beaux les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. »
Voilà des hommes dont la marche est conforme à cet évangile. Combien est belle la marche de tels serviteurs de Dieu qui annoncent l'évangile, mais aussi qui en jouissent, qui le vivent. L'apogée du mal arrive avec ce qui est appelé la contradiction de Corée. Corée était au service du sanctuaire, c'était un lévite, mais il ne se contentait pas de ce que Dieu lui avait départi. Il convoitait une charge dont Dieu ne l'avait pas investi. Alors il y a eu rébellion, et devant l'excessive gravité de ce péché, Dieu a exercé un jugement terrible. La révolte de Corée est une figure de ce que fera l'Antichrist. Il était en révolte ouverte contre Moïse, roi en Jeshurun, Deutéronome 33, verset 5, et contre Aaron, le souverain sacrificateur. Deutéronome 33, verset 5.
Et il a été roi en Jeshurun, quand les chefs du peuple se réunirent ensemble avec les tribus d'Israël.
Ces deux caractères sont ceux de Christ. Il est à la fois roi et sacrificateur, et ce sont ces caractères de Christ que la rébellion ouverte nie et niera, mais cela se montrait dès le temps de Jude. Depuis longtemps, on a nié les titres de Christ. On a parlé et écrit contre ces titres, établis et définis par la parole de Dieu. Telle est la contradiction de Corée. Caïn, c'est l'intelligence de la chair. Balaam, la cupidité et la corruption. Corée, l'audace, la révolte ouverte contre Dieu et contre Christ. Aujourd'hui, il serait très facile de trouver des faits portant le caractère de cette contradiction de Corée. On nie les Écritures, on lutte contre les Écritures, on s'attaque ouvertement à Christ. Voilà dans quelle atmosphère nous baignons tous les jours dans le monde. Heureusement, nous avons un autre air à respirer. Pour éviter le jugement qui tombait sur Corée et sur ceux qui étaient avec lui, il fallait s'éloigner de leur demeure. Ceux qui restaient à côté d'eux ont été engloutis avec eux. Il faut s'en séparer. C'est ce que Dieu nous demande, la séparation du mal. Quel jugement solennel, la terre les engloutissant vivants. Corée n'était pas seul. 250 autres qui présentaient l'encens furent consumés. L'affaire n'a pas été réglée entre Moïse et Aaron d'une part et Corée de l'autre. L'affaire a été réglée par Dieu. Le sort de ces âmes est l'affaire de Dieu. De sorte que s'il se rencontre des personnes privilégiées, comme l'était Corée, qui à un moment donné se sont rebellées contre l'autorité de Christ, on n'a pas à les attaquer, mais à s'en séparer. Nous nous imaginons quelquefois que nous pouvons, dans quelque mesure, arracher un Caïn à son chemin, ou un Balaam à son erreur, ou un Corée à son audace. Il n'y a rien à faire, sinon présenter Christ. Il suffit d'aborder ces états d'âme lorsqu'on en a l'occasion pour se rendre compte à quelle puissance on a affaire et qu'il faut la puissance de Dieu pour briser un cœur dans cet état et ouvrir les yeux de ces aveugles. Il faut la conversion. Souvenons-nous que nous n'avons pas à user d'armes charnelles, mais des armes de Dieu pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Mais c'est Dieu qui fait l'œuvre.